This is CKC Literary News. I am Hans-Gorger Ruprecht, bringing you Parole d'Afrique, une émission animée par Antoine Garcia à Paris.
Bonjour à toutes et à tous, et merci de votre fidélité à notre émission. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous intéresser à un poète ni à un ouvrage, mais à un pan entier de la littérature, puisqu'il sera question de la poésie dite négro-africaine et antillaise. Pour ce faire, nous recevons un poète et universitaire, Alain Houlou, spécialiste de Senghor et Césaire, les deux fondateurs les plus connus de la négritude. Alain Houlou, bonjour.
Bonjour.
Merci de venir aujourd'hui répondre à nos questions. En introduction, je me suis permis de parler de poésie négro-africaine et antillaise, afin de coller à un choix qui est souvent fait dans les anthologies, notamment celle de Hamidou Dia, parue il y a une dizaine d'années aux éditions de la Table Ronde. Vous, qui êtes un fin connaisseur de cette poésie, que pensez-vous de ce regroupement sous une même bannière de l'Afrique noire et des Antilles? Ce regroupement vous paraît-il simplement pratique, rétrograde, ou alors véritablement justifié?
Je crois que ce regroupement est tout à fait justifié, car ce sont les Antilles françaises dont on parle, et non pas les Antilles néerlandaises, anglaises, il y en a d'autres. Et c'est l'Afrique héritière de la colonisation française, et non pas espagnole, portugaise, anglaise, voire allemande. Et pour ce qui est de l'anglais, je pense bien sûr à la poésie d'Afrique du Sud, où il y a même la poésie néerlandaise. En fait, il faut bien voir que ce regroupement est un regroupement fait a posteriori, à partir du moment où le poète président, Léopold Sédar Senghor, avait créé le concept de francophonie, ou plutôt l'avait repris. Ce concept a été inventé par Onésime Reclus, frère du géographe célèbre Élisée Reclus, dans les années 1880. Et c'est Léopold Senghor qui l'a repris, lui a donné tout son sens. Et pour lui, comme il dit, la langue française est ce merveilleux héritage qu'on a trouvé dans les débris de la colonisation. J'irai plus loin en disant, y compris dans les débris de la servitude et de l'esclavage. Car si l'Afrique a été colonisée, les poètes, les écrivains antillais de langue française sont des descendants d'esclaves, quand ce n'est pas des poésies qui remontent à la période esclavagiste elle-même, avant 1848 et Victor Schœlcher. Donc, en réalité, il y a une unité qui est une unité linguistique. Et cette unité linguistique, c'est un paradoxe que Senghor a très très bien vu. Car la francophonie, c'est quoi? La francophonie, c'est ce qui intéresse les gens qui parlent le français ailleurs qu'en France, et non pas l'Hexagone. Et c'est ainsi que Senghor pouvait hurler « Français, réveillez-vous » ou pour parodier le Marquis de Sade dans « Idées sur les romans », je dirais « Français, encore un effort ». Car ce sont en fait les Antillais, les Africains, ceux qui ont la peau noire, mais aussi, n'oublions pas, en francophonie, ceux qui ont la peau jaune, je pense au Vietnam, au Cambodge, qui ont le plus défendu et qui défendent toujours la francophonie. Donc, ce n'est pas un artifice, c'est au contraire rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui, esclaves d'un côté, colonisés de l'autre, ont défendu la langue du colonisateur en se disant « on va la réutiliser et on va la réutiliser comme si c'était quelque chose qu'on se réappropriait ». Et là, j'ai parlé de Senghor, je pense maintenant à Césaire, lorsqu'il parle de la poésie de Lautréamont, les chants de Maldoror, Isidore Ducasse, un poète maudit, un poète inconnu de son vivant. Et Césaire a cette phrase extraordinaire, « La poésie de Lautréamont, belle comme un décret d'expropriation ». Eh bien, je dirais que les Français de l'Hexagone sont quasiment expropriés de la lutte contre l'oubli du français, de la lutte pour la défense de la francophonie, qui est l'apanage aujourd'hui des écrivains des Antilles et de l'Afrique noire héritière de la colonisation française, et singulièrement des poètes qui en ont fait un véritable fer de lance.
Si je comprends bien, il y a donc un renversement historique, puisque on part d'une langue française qui est la langue du colonisateur, la langue de l'oppresseur, et finalement aujourd'hui on en arrive à un point où cette langue française est surtout défendue par les anciens colonisés. Mais finalement, n'y a-t-il pas une sorte de danger pour ces écrivains à reprendre une langue qui était celle de l'oppresseur ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un danger, finalement, pour ces écrivains, notamment en Afrique, à tomber dans une écriture à ce point marquée, si l'on peut dire, au fer noir? Car ainsi, la littérature africaine d'expression française est souvent déclassée. On sait bien que, par exemple, le prix d'Afrique noire n'est pas aussi bien considéré que les prix de l'Académie française, par exemple, et que la littérature africaine de langue française est considérée comme inférieure à la littérature, entre guillemets, française. Ne pensez-vous pas ainsi que la négritude puisse être une chape de plomb pour les écrivains qui s'en revendiquent?
La négritude, c'est un concept, on le sait souvent assez peu, qui a été inventé par Aimé Césaire. Et Léopold Senghor le reconnaît et il dit « Nous avons inventé ce mot, nous avons donné ce nom de négritude ». Et il précise « Je dis nous, j'allais oublier, jeu de mots de Senghor, de rendre à César ce qui est à César, car c'est lui qui a inventé le mot dans les années 1932-1934 ». Et effectivement, le mot négritude, créé par Césaire dans un article intitulé « Négrerie », car au début c'était « Négrerie avant négritude », est un concept qui enveloppe toute l'œuvre de ces poètes des Antilles, comme d'Afrique, dont nous parlons aujourd'hui. Et il nous suffit de nous référer à deux définitions extraordinaires que Senghor a données de la négritude en 66 à l'université de Beyrouth, en pays francophone, pas dans l'Hexagone. La négritude est l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir, c'est-à-dire une certaine présence active au monde, à l'univers. Et un peu plus loin, elle est essentiellement relation avec et mouvement vers le monde, contact et participation avec les autres, parce que telle, la négritude est aujourd'hui nécessaire au monde, elle est l'humanisme du XXe siècle. Je dirais, après la disparition de Senghor et de Césaire, que la négritude est un humanisme qui nous interpelle pour le XXIe siècle. La négritude est donc une valeur universelle. C'est la valeur qui permet de comprendre pourquoi Césaire parle d'homme juif, d'homme cafre, d'homme nègre, d'homme maudit. La négritude, c'est tout simplement le concept qui réunit tous les exclus, tous ceux qu'on a stigmatisés depuis l'Antiquité. Césaire et Senghor étaient des grands spécialistes du grec et du latin et ils connaissaient ce qu'était barbaros, le barbare, celui qui brebrebre, qui bredouille, qui ne parle pas la langue du maître. La négritude, c'est une arme de combat. Mais la suite de votre question, moi, m'interpelle beaucoup. Effectivement, est-ce que la négritude pourrait être une chape de plomb? Est-ce que ça pourrait être une stigmatisation de la peau noire, d'une manière ou d'une autre? Bien, le combat est encore loin, est encore long. Car effectivement, on va dénoncer quelques scandales. Allez, on y va. Comment se fait-il qu'on publie des poètes vivants dans de prestigieuses collections? Je pense au dernier volume publié dans la collection de la Pléiade, chez Gallimard. C'est Philippe Jacotet, un poète que j'aime beaucoup et qui mérite d'être publié. Mais dites-moi, Senghor, Césaire, Léon Gontran Damas, les pères de la négritude, ceux qui ont combattu aussi pour la francophonie, ne mériteraient-ils pas d'avoir des éditions aussi prestigieuses? Mais je vais encore plus loin. Quand on parle de se faire de la colonisation, se faire de l'esclavage dont vous parlez tout à fait vous-même. Mais à partir de là, n'est-il pas scandaleux qu'aucun de ces poètes n'ait jamais été récompensé, à l'inverse des poètes sud-américains, asiatiques et d'autres contrées encore, n'aient jamais été récompensés, dis-je, du prix Nobel de littérature? Un économiste qui fut ministre au Sénégal, M. Ahmad Sall, hélas disparu récemment, se donna comme mission de défendre l'attribution du prix Nobel de littérature à Aimé Césaire. Il adressa, et j'ai eu sa lettre en main, au président du jury à Stockholm, une lettre où il analysait à la fois Césaire, le poète, pour justifier la demande, en le comparant au comte de Lautréamont, en le comparant à Arthur Rimbaud. Et il avait un jugement sur Césaire qui eût dû emporter la palme. Il disait « Césaire apparaît comme le lieu ontologique de réconciliation, d'apaisement, de fusion en une salutaire dialectique de la mémoire, de la souffrance, du dépassement héroïque, de l'espoir, de la fraternité et de la foi dans le génie de l'homme. » Oui, mais Césaire descend d'esclave. Un de ses ancêtres, qui avait pourtant été affranchi, a été exécuté néanmoins, parce qu'il avait la peau noire. Alors là, permettez-moi d'avoir un souvenir. Il y a à peu près un an, c'était le 23 mars 2013, nous étions à Dakar pour célébrer le retour de Aimé Césaire qui avait écrit un cahier de retour au pays natal. Là, c'était le cahier du retour au pays ancestral. Et nous avons, avec des poètes comme Chamoiseau, Maximin et puis Madame Taubira, garde des Sceaux de la République française, tous à la peau noire, visité l'îlot de Gorée. Et là, plusieurs ont éclaté en larmes, car nous étions là où les enfants esclaves partaient. Alors, cette négritude, elle n'est toujours pas reconnue, même littérairement, puisque les plus grands prix ne sont pas donnés. Heureusement, nous avons eu la chance que Léopold Sédar Senghor Je précise que Cédar, dans sa langue, le Cérère signifie « celui qu'on ne peut abaisser ». Et lui, il a été, au contraire, élevé à la dignité de membre de l'Académie française. Mais attention, il était président, ancien président de la République du Sénégal. Je voudrais bien que des poètes qui n'ont jamais fait de politique, qui n'ont jamais eu de récompense autre que leur littérature, soient autant et aussi honorés que lui.
Vous mentionniez l'îlot de Gorée, celui d'où partaient les esclaves pour l'Amérique. L'Amérique, c'est justement l'endroit d'où est venu le concept de négritude développé par Aimé Césaire à travers ce qu'il a précédé, le mouvement de la Renaissance de Harlem. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu quel a été ce phénomène américain qui a précédé le phénomène français, phénomène qui est très peu connu en France ?
Très peu connu, et je le déplore, car nous avons des tas de périodes de l'histoire littéraire universelle qui sont tout à fait connues. On a des émissions de télévision, on a des reportages, ils sont dans les livres de littérature, ils sont au programme des écoles. Mais c'est ce que j'appelle, je réfléchis beaucoup à cet aspect, le point de vue dans l'histoire, le point de vue majoritaire, le point de vue, disons-le, impérialiste. Et beaucoup de pans entiers de la littérature ne sont connus que tout récemment. Je pense par exemple aux sagas islandaises. Ah ben les Vikings n'étaient pas les maîtres, ils n'étaient pas les maîtres à bord. Ce n'est pas le point de vue majoritaire. Et il a fallu des années pour qu'on voit qu'ils avaient même découvert l'Amérique. L'Amérique, dis-je ? Ben justement, parlons-en de l'Amérique. Harlem Renaissance est une période extraordinaire, peu connue, période de la culture négro-américaine, africo-américaine, d'entre les deux guerres. D'entre les deux guerres, ai-je dit. C'est-à-dire moins de 50 ans après la guerre de sécession et après l'abolition de l'esclavage. C'est une époque donc où plusieurs sont encore vivants qui ont encore les marques des chaînes sur leur peau et où tous connaissent des parents, des amis plus âgés qu'eux qui ont eux aussi encore la trace des chaînes du fer rouge sur leur peau quand ce ne sont pas des parents qui ont eu le jarret coupé parce que c'était des esclaves fugitifs. C'est encore aux États-Unis. Ne l'oublions pas, avant Kennedy, avant l'Alabama, c'est l'époque de la ségrégation. C'est notamment cette politique qui est une politique ségrégative pour désigner ce qu'on appellera sur un autre continent l'apartheid. Mais l'apartheid existait bien aux États-Unis sous ce nom de ségrégation. Les Noirs étaient rejetés du centre-ville de New York. Rejetés où ? Bien à Harlem. Ah, Harlem est connu pour les fameux Harlem Globetrotters, parce que là, en sport, on permet aux Noirs d'être au pinacle. Mais dans le reste, on ne leur permet pas. Et au nord de Manhattan, Harlem les a accueillis dans ce que nous appellerons un ghetto. Et c'est cette culture du ghetto, une culture multiforme qui mêle l'écriture et le jazz, la musique et la littérature, la poésie de combat et la musique de combat. Il est vrai qu'aujourd'hui, la musique noire, alors je pense à Armstrong, Count Basie, Cab Calloway, Duke Ellington, sont beaucoup plus connus que les écrivains de l'époque. Peut-être parce que la musique, c'est moins gênant. Et aujourd'hui, nous essayons, les uns et les autres, avec nos moyens, de remettre à l'honneur cette littérature parallèle, rejetée par la littérature officielle des États-Unis, rejetée dans les livres de littérature, rejetée par l'université, rejetée par l'édition, avec des personnalités extraordinaires comme Dubois, Langston, Hughes, County Collins, Jean Toomer, des gens qui sont à l'image de Léon Gontran Damas, qui lui était guyanais, il avait plus de chance, car l'abolition de l'esclavage n'a pas entraîné la ségrégation, heureusement, dans le pays des droits de l'homme de la déclaration du 26 août 1789. Mais malheureusement, le pays qui avait fait aussi une déclaration des droits de l'indépendance n'a pas respecté cela. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, eh bien, Harlem Renaissance, tout doucement, peut être mis à l'honneur, à l'image même du poète président que fut Senghor sur l'autre continent, à l'image même en Guyane, Guadeloupe, Martinique, de ce que représente pour eux Aimé Césaire, le poète maire et député pendant quasiment un demi-siècle. Mais n'oublions pas qu'à l'époque d'Harlem Renaissance, pour faire court, chers auditeurs, Obama n'était pas encore président. Aujourd'hui, les choses sont peut-être en train de changer.
Alors à la fin de l'année, une revue livre va être publiée par les éditions de La Cheminante sur Harlem Renaissance. Vous et moi avons eu l'honneur d'être sollicité pour y contribuer.
Tout à fait. Et je voudrais simplement ici en terminant, remercier celle qui est à la tête des éditions de la Cheminante, qui nous a sollicité un certain nombre d'autres auteurs, Sylvie Darrow. Car Sylvie Darrow, elle a à cœur, justement, de réparer cette injustice dans l'histoire de la littérature, peut-être, mais surtout de la culture. Et elle le fait merveilleusement bien. Et le volume qui paraîtra, Harlem Renaissance, je crois, sera la première pierre qui permettra enfin d'ouvrir dans toutes les histoires de la littérature universelle un chapitre entier après l'abolition de l'esclavage, l'éclosion d'une littérature noire américaine qui s'appelle Harlem Renaissance, la littérature du ghetto. Merci à Sylvie Darrow.
Eh bien, pour montrer à nos auditeurs effectivement cette première pierre posée par Sylvie Darrow et ses éditions de La Cheminante, je vous propose de lire les deux poèmes que nous avons écrits pour cette revue livre. Je vais me permettre l'impolitesse de commencer par le mien et vous lirez le vôtre ensuite. Ce texte que je vais lire, je l'ai coécrit avec Sarah Balavoine, une jeune auteure de grand talent. Vous enchaînerez ensuite avec le vôtre, Tais-toi, Négro. Une affranchie. Je n'ai même pas claqué la porte. J'ai couru. Il pleuvait fort. Une sensation de dégoût. Je ne suis pas retourné, pour qu'il ne me voie pas, pour qu'il ne voie pas mon visage en pleurs, les voisins, tous ces voisins ameutés par le bruit. Le bruit du coup de feu. Il ne me touchera plus ? J'ai couru jusqu'à la 5e avenue, je crois. Un nombre impair, c'est sûr. Il ne me touchera plus. Puis j'ai pris à droite. Je n'ai plus peur, je me suis arrêté net. Il ne me touchera plus. Me voici à Harlem, devant un pub. Il y a de la lumière, une lumière tendre. Une métisse y chante, une jeune femme au regard mélancolique, le genre de femme qui ne sait pas qu'elle est belle et qu'elle pourrait rendre fou. Tous ces hommes d'affaires avachis vautraient dans la fumée de leurs cigares, encravatés, endimanchés, ils ne sont plus que le décor de leur propre personnage. Elle n'en a pas encore conscience. Elle est comme moi, avant. Elle semble se trémousser à mesure que la pluie frappe le carreau. J'enlève le vieux chapeau ruisselant. Son chapeau, tandis que l'eau rafraîchit mes joues encore suffocantes. J'entends pas sa voix paraît si douce, je veux savoir ce qu'elle chante, je veux l'entendre, j'entre, les cravates me fixent, la jeune femme que je fus me sourit et semble me parler. A Saturday night, whimsical shadows made of concrete foundations to the infinite Harlem, brimmed hearts swinging out the rain downtown, swinging, casting their glances out of wonder, blurry, dizzy on the inside. Easy on the ride, dark parts on the sidewalk, thinking fast, miscellaneous, free at last.
Et toi, Négro. 1903, l'autre siècle à 3 ans, la plume de William Edward Burgart Dubois éclate dans The Souls of Black Folk, âme noire ou âme morte. William Edward Burgart, W.E.B. Webb Dubois. Aux initiales prémonitoires pour qui surfe sur la toile. Toile de lin blanc immaculé, toile de lin écru, toile grège, mais toile qui jamais n'est noire. On parle de blanc cassé comme si c'était lui, le baltimorien blanc qui tire la langue et traite County Cullen de sale nègre qui se brisait sous les coups, comme si le nègre restait indestructible, tel l'ébène, comme si rien ne pouvait venir à bout de la carcasse de cuivre jaune du Césaire de Coucoupé. Coup de bâton, Kane, qui disperse les membres de Jean Toomer. Kane, le bâton, titre de son roman morcelé, chef-d'œuvre de la Renaissance de Harlem et de la génération perdue. De quoi nous envoyer tous Requiem de Cab Calloway à St. James Hospital. Jazz et boogie-woogie de l'espoir. Tais-toi, négro, tais-toi, Langston. Tais-toi et écoute le hurlement d'Aimé, lui qui, à partir de la négro-renaissance née à Harlem, inventa de toutes pièces cet incroyable mot de 3 syllabes, négritude. Comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères, je serai un homme juif, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas, disait Césaire dans son cahier d'un retour au pays natal. Ne te tais plus, négro, mais hurle. l'Afrique est de retour.
Alain Houlou, merci beaucoup pour ce très beau poème. Quant à vous, chers auditeurs, je vous dis à très bientôt pour CKCU Literary News, Antoine Houlou Garcia, à Paris.
De la radio communautaire de Carleton University Ottawa, c'était Parole d'Afrique, une émission de CKCU Literary News. Comme toutes nos émissions littéraires diffusées en trois langues, celle-ci vous est aussi offerte par Balado Diffusion Podcast, ainsi que sur notre liste lecture automatique CKCU On Demand, telle qu'indiquée dans Google. Nous sommes aussi sur Facebook et Twitter. Au plaisir de vous lire et merci.